Bonjour et très bon fin de semaine à toutes et à tous. Bienvenue à Panorama Économique, la rétrospective de l'actualité économique de Radio Okapi. Les titres pour commencer. Début des travaux de concertation nationale aujourd'hui samedi à Kinshasa. Les délégués venus quasiment de toutes les provinces vont discuter pendant au moins deux semaines pour le bien des Congolais. Mais à quel prix ces assises sont-elles organisées? Éléments de réponse dans votre magazine tout de suite. Un audit dans le secteur des mines en RDC révèle que des faiblesses peinent son développement. Parmi les recommandations de l'atelier de validation du rapport de cet audit, les experts demandent au gouvernement de rajeunir le personnel et de revoir à la hausse l'enveloppe salariale. Un comptable public de Mbujimayi disparaît avec plus de 30 milliards de francs congolais. L'argent était destiné à la paie des primes des fonctionnaires de l'État. Panorama économique de cette semaine reçoit Romain Mukendi, qui est géologue, explorateur, senior. Il est aussi consultant et analyste. C'est avec lui que nous allons démarrer cette émission, l'émission de cette semaine. Monsieur Romain, bonjour et bienvenue au plateau de Panorama économique.
Bonjour monsieur et bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Et devant le micro, Daniel Sambinzoni et François Kadima pour vous retracer la rétrospective de l'actualité économique de la semaine sur la Radio Okapi. François, bonjour.
Bonjour Daniel.
Panorama économique, le dossier.
Le premier dossier de la semaine, c'est aujourd'hui le 7 septembre, date retenue pour l'ouverture des concertations nationales.
Oui, Daniel, des délégués représentant les différentes couches de la population venue quasiment de toutes les provinces vont débattre pendant au moins 15 jours pour le bien-être des Congolais. Le poids de ces concertations nationales sur les trésors publics dans ce condensé de Bérifon Claire ou Tchaka.
Le président des concertations nationales avait sollicité du gouvernement un minimum de 5 millions de dollars américains. C'est beaucoup d'argent, 5 millions de dollars américains, et en même temps insuffisant au regard des charges de l'organisation. Un petit calcul rapide nous mène à comprendre qu'il y aura tout au plus 700 participants. Et selon nos sources, chacun toucherait une prime journalière variant entre 300 et 420 dollars par jour pendant 15 jours. Tout compte fait, la prime atteint 4 360 000 dollars à raison de 420 dollars par jour. Mais lorsqu'on considère que l'ordonnance convoquant les concertations nationales fixe à 15 jours minimum et à 20 jours maximum la durée de ces assises, avec possibilité de 5 jours de prolongation, les chiffres pourraient être revus. Il faut ajouter à cela la restauration de 700 personnes, le transport des conférenciers, le logement et toute la logistique. Pour certains observateurs, seul Dieu sait si le délai sera respecté. La conférence nationale souveraine, prévue pour 2 mois, s'était étalée sur 2 ans. Le dialogue intercongolais est allé au-delà du délai et le dialogue des Kampala qui s'éternise avec tout le poids financier sur le trésor public. D'autres analystes craignent de voir le gouvernement recourir à la planche à billets pour faire face à cette charge, ce qui ferait éclater les acquis de la stabilité macroéconomique actuelle.
Merci Béry Tonklin Loutchaka pour ces détails. Nous retrouvons dans ce studio Romain Mukendi, les géologues en exploration et senior. C'est ça, Romain?
Oui, en effet, c'est géologue d'exploration senior et consultant, aussi journaliste.
Voilà, vous venez de suivre ce premier dossier qui parle du coût financier des concertations nationales. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire tout de suite?
À mon avis, je suis un tout petit peu, disons, d'une part content et d'autre part, j'essaie de voir les choses en face avec vous.
Content parce que?
Je suis content du fait que ce colloque qui va essayer de réunir autour d'une table les Congolais d'avis divergents au départ pour pouvoir travailler ensemble et arriver à tracer, on va dire, une autoroute de paix qui peut nous ramener tous dans le même chantier de vision des choses. Alors, ceci va permettre également que les uns et les autres qui ne pouvaient pas s'entendre avant puissent peut-être se mettre cette fois-là et donc débattre de la chose publique, débattre de la République qui est la nôtre, qui est une seule, et pour laquelle nous devons tous nous mettre d'accord sur un avis et pouvoir continuer à aller de l'avant. Alors, quant à sa charge, disons, le poids économique de ce que ça va donner, à mon avis, la paix n'a pas de prix. Donc, si l'on peut travailler pour avoir la paix et que cette paix peut passer par par les concertations nationales qui ont été convoquées, qui vont pouvoir démarrer. Donc, à mon avis, c'est de donner beaucoup de chance, et surtout de demander à tous les participants d'être consciencieux, parce qu'ils ont la charge de pouvoir parler de la République et de représenter les 95 millions de la population congolaise.
Donc, la paix n'a pas de prix, ça peut prendre autant de jours comme on a connu avec la Conférence nationale souveraine et qui a occasionné de saigner au trésor public.
Nous disons déjà si théoriquement l'arrêté qui convoque les concertations donne la possibilité de prolongation de plus ou moins 5 jours, et que s'ils peuvent arriver à 20 jours ou peut-être dépassant très exactement, alors peut-être disons comme ça 25 jours, maximum un mois.
Ce serait une bonne chose.
Et que par rapport à ça, les résultats du travail qui va être débattu, qui va donner des résultats de compte plus ou moins intéressants en disant les Congolais se sont mis d'accord, qu'ils peuvent travailler ensemble la main dans la main, aller de l'avant et progresser par rapport à la communauté, et que ces résultats sont satisfaisants, à ce moment-là, un mois n'aurait pas le...
Mais il y a l'économie des pays qui en dépend. Si on va recouvrir la tranche à billets, parce que ça risque les os sur l'économie du pays.
Mais je crois que les accords qui ont été passés, la convocation des concertations est passée par les voies légales, donc tous les responsables sont déjà mis au départ analyser la chose comme elle doit se passer. Donc, à mon avis, je ne crois pas qu'on puisse aller désespérément au-delà des actes qui ont été donnés.
On aborde le deuxième dossier de la semaine. Il faut améliorer la gestion des ressources humaines, financières et logistiques du secteur des mines de la RTC.
Les experts ont même recommandé la révalorisation de l'administration centrale et provinciale du ministère des Mines. Ils l'ont dit mercredi à Kinshasa à la clôture de l'atelier de validation du rapport d'audit mené par donc dans le secteur des mines de la RDC par le cabinet Price Waterhouse Coopers. Paul Makendo nous fait le compte rendu.
Après examen des faiblesses relevées et des propositions de solutions faites par le cabinet d'audit Price Waterhouse Coopers, les participants ont émis le vœu de voir pour le ministère des mines une réorganisation de l'administration minière aussi bien au niveau national que provincial. Cela en vue d'atteindre comme résultat l'amélioration des performances, le renforcement de l'efficacité du secteur et la rapidité dans la prise de décision. Au sujet du plan d'action pour la réorganisation du service d'assistance et d'encadrement de la petite mine, les experts du secteur proposent la redynamisation de la gestion de l'artisanat minier. Selon eux, cette recommandation pourra avoir comme impact l'augmentation et la formalisation des revenus et de la production artisanale. Cela pourrait entraîner, estime-t-il, une transition de nombre important d'artisans vers la petite mine. Parlant de la gestion des ressources humaines, financières et logistiques, il recommande l'optimisation de ces ressources en vue d'atteindre l'amélioration de la productivité, la maîtrise des effectifs et ainsi accroître la motivation des agents.
Merci Paul Makendo. Parmi les constats faits par le cabinet PricewaterhouseCoopers, il y a également une mauvaise canalisation des recettes du secteur minier de la RDC.
Oui, je suis d'avis avec ce grand cabinet connu par le monde. Disons les résultats des travaux qu'ils font, qu'ils donnent des recommandations assez précises au gouvernement. Il va sans dire que moi, je peux aussi ajouter quelque chose en disant qu'on a vu le gouvernement camerounais, le gouvernement gabonais, par le biais du ministère des Mines, ils ont pris des consultants, des experts consultants pour le compte du gouvernement, qui essaient de leur donner plus ou moins une sorte de police. Ça veut dire que ce sont des garde-fous sur une autoroute bien tracée dans le secteur des mines, des hydrocarbures, de l'électricité, et par rapport à ça, ils vous donnent exactement ce que l'opérateur minier travaillant en RDC ou ailleurs on doit faire et ce qu'il ne doit pas faire, pour éviter effectivement cette porosité en grand sur les finances. Vous sentez que cette porosité, pour la colmater, ce n'est pas toujours facile. Mais si au départ, par l'engagement des permis, etc., l'exploitant minier sait déjà, d'ores et déjà, ce qu'il devra faire par rapport à la police qui a été établie par les consultants qui travaillent avec le gouvernement, et cela peut passer plus rapidement. Et moi, je connais aussi également une autre boîte qu'on appelle SRP Consulting, qui est une grosse boîte qui gère l'environnement, les mines, les hydrocarbures, même l'électricité, donc qui conseille notamment le gouvernement camerounais et gabonais, et donc pourquoi pas le faire avec la RDC. Et à ce moment-là, on a aussi un avis des experts venant de l'extérieur et qui peuvent toujours donner du tonus à ce qu'ils
veulent. Lorsque l'audit demande au gouvernement de réorganiser le ministère des mines, ça dit beaucoup.
Oui, en effet, c'est de fond en comble que vous sentez qu'il doit y avoir un remue-ménage. Donc, partant déjà, d'ores et déjà, des salaires, des agents qui sont, s'ils sont plus dans les bonnes conditions de travail et qu'ils doivent rendre le meilleur d'eux-mêmes, par rapport à ça, les gens sont motivés. Alors, s'il y a la démotivation parce que peut-être les salaires ne sont pas très bien suivis ou que les salaires ne sont pas correspondants aux efforts qu'ils fournissent, ce qui fait que ça donne l'avantage à cette fuite des capitaux qui est une porosité en grand que nous constatons dans le pays.
Nous regardons, monsieur Romain Mukendi, le temps de prendre ce troisième et dernier dossier de la semaine. Au Kassai Oriental, le comptable public, code 0244, a fui avec plus de 30 milliards de francs congolais, argent destiné à la paye des fonctionnaires. Nous vous en parlions lundi.
Il avait déclaré cet argent depuis jeudi de la semaine dernière au guichet de la Banque Centrale du Congo, succursale de Mbujimayi. D'après l'association de médecins vétérinaires du Kassai Oriental, le fonds était destiné à la paye de la prime de 4 services de l'État. Le comptable est introuvable sur la ville, nous dit François Chibengé.
Les victimes de ce détournement sont les agents de l'Inspection provinciale de l'agriculture, des services vétérinaires, les services nationaux des semences et de la Division provinciale de développement rural. Des sources concordantes affirment que le comptable public Diop Mukeba Kayambala, code 0244, a retiré plus de 33 milliards de francs congolés vers 17h. De là, il va se diriger vers son bureau. Il trouve les agents qui l'attendaient pour la paix déjà partout. Diop Mukeba fixe rendez-vous aux deux agents qu'il croise en route, qui le requièrent entrevue à 11h. Depuis lors, personne ne l'a réussi sur la. Ses téléphones portables sont hors service et domicile et résidence qu'a dénoncé. Il aurait dit à ses voisins qu'avec toute sa famille, il partait à la montagne pour la prière. L'information est confirmée à la division provinciale des finances où toutes les batteries sont mises en marche pour retrouver ce fugitif. Même l'autorité provinciale s'implique. Le gouverneur de province a déclaré ce matin lors de la cérémonie de couleur nationale que ses comptables seraient punis de manière exemplaire. Les agents de l'État ne comprennent pas comment on a pu servir les comptables au-delà de 15 heures alors qu'il y a une mesure qui interdit cette pratique aujourd'hui.
Plus de 33 milliards de francs congolais réunis à un comptable public alors qu'on parle de la bancarisation à la RDC. Et puis, ce reportage se termine par une réflexion que lance le collègue. Les agents disent comment on peut remettre l'argent à cette heure-là au-delà de 17 heures à un individu alors qu'il y a des lois qui l'interdisent. C'est que si on suit de près, ce comptable est dans une équipe bien organisée, un réseau peut-être,
oui,
qui a organisé la fuite de ses capitaux.
Monsieur les journalistes, vous serez d'accord avec moi que l'on parle, il y a des spots publicitaires sur les quatre langues nationales qui provoquent et presque applaudissent le bien vouloir faire de la bancarisation. Et moi ici, je suis aussi grandement étonné de voir que par cette bancarisation, les 30 milliards de dollars, les 30 milliards de francs congolais ne devraient pas ressortir de la banque. Ils devraient plutôt être
au niveau
de la banque, être expliqués dans les différents comptes. Et à ce moment-là, la bancarisation aurait de très beaux effets. Et que si maintenant, dans une situation malheureuse où nous nous retrouvons avec un fonctionnaire de l'État qui lui permet de prendre 30 milliards de francs congolais. Vous voyez, c'est quel tonnage. C'est un tonnage important en termes d'argent. Comment est-ce qu'il a pu les prendre seul? Il n'a pas pu les transporter sur sa tête. Donc, c'est, à mon avis, c'est une organisation en bande. C'est vraiment une bande organisée.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Les autres informations de la semaine en bref, lundi, les exploitants miniers artisanaux de Litouri qui utilisent des motopompes ne doivent plus payer des taxes au service des ressources hydrauliques. Cela jusqu'à nouvel ordre. La chef de bureau des ressources hydrauliques en Litouri justifie sa décision par le fait qu'il y a des agents de son service qui ont piraté sa signature et ont fait fabriquer des faux ordres d'émission pour percevoir les taxes dans les foyers miniers des territoires de Dougou et d'Irumou.
La direction générale des impôts a lancé un nouveau modèle de déclaration mensuelle de la taxe sur la valeur ajoutée. Ce nouveau modèle de déclaration selon la DGI permettra aux assujettis intervenant dans les cadres de marchés publics à financement extérieur de déclarer correctement les opérations réalisées d'un côté et de l'autre aux assujettis bénéficiaires de prestations de services rendues par des prestataires non établis en RDC ou de leurs représentants de déclarer et de réserver la TVA collectée pour compte. Le modèle est à télécharger sur le site www.dgi.gouv.cd ou à obtenir auprès de ce service opérationnel.
L'Office congolais des contrôles a lancé ce mercredi à Kinshasa un nouveau portail internet dénommé OCC Export. Selon le directeur général de cet office, OCC Export est un mécanisme technologique qui permettra de retracer toutes les opérations d'exportation. Avec ce dispositif informatique, a-t-il poursuivi, l'échange des informations entre les opérateurs économiques et l'OCC se fera désormais en peu de temps.
Les réseaux de téléphonie mobile Airtel et Vodacom sont coupés depuis plus d'une semaine à Beni et Butembo. Nous sommes dans le Nord Kivu. Les usagers de Vodacom et Airtel ne peuvent ni passer ni recevoir des appels. Les commerçants disent avoir des difficultés pour diriger leurs affaires, faute de communication. Les responsables de Airtel et Vodacom Beni indiquent que leurs équipements situés dans le secteur de Kibati ont été touchés par des tirs lors des derniers combats entre les FRDC et l'M23. Les techniciens qui ont pu avoir accès à cette zone contrôlée par les FRDC sont déjà à pied d'œuvre pour établir la communication affirmative.
Il faut aussi dire son soir qu'à Kinshasa, il s'observe de très grandes perturbations en communication, surtout en ce qui concerne le réseau RTL.
Le réseau RTL et Vodacom également.
Voilà. Et nous retournons vers Romain. Romain, vous avez un petit commentaire à placer sur l'une ou l'autre info de cette série?
Oui, en effet, la perturbation sur Kinshasa en réseau télécommunication est très manifeste. Quand on essaie de passer dans l'interconnexion, c'est davantage plus compliqué. Donc, on demanderait davantage à nos exploitants de télécom de pouvoir faire davantage mieux pour servir la population, parce que
la communication
c'est donc celle qui gère le déroulement au quotidien de toutes les affaires, etc. Et donc, pourrait demander à ce qu'ils multiplient les efforts pour pouvoir amener le travail de qualité qu'ils ont fait.
C'est un manque à gagner également pour les réseaux et aussi pour...
Et pour la population aussi qui n'arrive pas à passer ses communications, qui n'arrive pas à gérer ses affaires.
Et surtout avec les M-Pesa, tu vois, c'est des transactions financières qui se font par téléphone, et lorsque le téléphone ne marche pas, lorsque le réseau n'est pas stable, ça crée beaucoup de perturbations.
Une grosse perturbation.
Matière première.
L'exploration des gisements du pétrole par les entreprises pétrolières en RDC ne peut pas s'effectuer sans permis d'exploration accordé par le gouvernement. C'est ce qu'a indiqué le ministre des hydrocarbures, c'était mardi à Radio Capi, ici à Kinshasa. Crispin Atamatabé a signifié que cette exploration se déroule dans le bassin côtier à l'ouest de la RDC et dans les Grabens Albertines à l'est. Parlant du code d'hydrocarbures qui est sous examen au Parlement, Crispin Atamatabé a ajouté que son secteur court le risque d'être bloqué sans ce code. Crispin Atamatabé l'a dit à Paul Matendo.
Si vous arrivez dans le Graben Albertine, vous trouverez que les trois blocs qui ont été attribués, c'est-à-dire 1, 2, 3, successivement 4 et 4, Forcelpe et Total et Similiki, ils sont très avancés d'ici que le forage pourra démarrer. Dans le bloc 5, il faudra présenter d'abord l'étude de l'impact environnemental avant de commencer l'exploration. Au niveau du bassin côtier, je pense que ça avance. Le bloc Nganzi avec Soko, ce bloc Luz avec Energulf, l'exploration se poursuit, alors que dans le bloc Iyama, Matamakanzi et Ndunda, il faut qu'on renouvelle le permis d'exploration des sous-estrés.
Entre-temps, la société civile lève la voie pour signifier son opposition et dit que ces entreprises n'ont pas de permis d'exploration. Votre réaction ?
Elles doivent le prouver. En RDC, personne ne peut d'obtenir un droit des hydrocarbures sans un permis. Le ministère des hydrocarbures a reçu mandat de par le CPP, l'ordonnance financière qui est approuvé le CPP dans le bloc 5, de pouvoir voir ce qu'il y a dans le sous-sol du lac Édouard, quelque soit par Tévirunga, mais sous conditions bien sûr.
Quelles sont ces conditions ?
Prouver que ça ne soit pas une occasion pour détruire le parc.
Monsieur le ministre, la RDC pourrait-elle vraiment se doter d'une loi dans ce secteur si depuis la législature de 2010 qu'un projet de loi sur les hydrocarbures est déposé au Parlement, il n'en est jamais ressorti?
Le code des hydrocarbures est un outil indispensable pour relancer le secteur que je vous appelle animé. Il y a une proposition de loi élaborée par le Parlement. Nous pensons que la prochaine session de ce mois-ci inscrira sur l'ordre du jour. Sans le code des hydrocarbures, le secteur est bloqué.
Alors, monsieur le ministre, qu'en est-il de l'exploitation par la RDC du gisement de pétrole certifié à l'est comme à l'ouest, surtout lorsqu'on sait que l'Angola et l'Ouganda sont déjà dans la phase d'exploitation?
À l'est, aucun pays voisin n'a commencé à exploiter le pétrole. L'Ouganda est bien sûr avancé par rapport à l'RDC au niveau de l'exploration d'abord. À l'ouest, l'Angola produit, le Congo, le Brésil produit. Nous sommes produits pendant qu'on fait même pas l'exploration. Peut-être mieux que l'exploitation à l'ouest, n'est-ce pas? Même si le niveau n'est pas suffisamment élevé par rapport aux deux pays que je viens de citer.
Atamata, ministre des hydrocarbures, monsieur Romain, vous êtes géologue en exploration. Le secteur du pétrole, il est prometteur, ce secteur.
C'est un secteur dont le gisement, disons, en termes de tonnage, en termes de ressources, important, mais dont la gestion n'est pas très, à mon avis, la gestion dans ce domaine n'est pas encore très outillée. Donc, il faudrait qu'on ait, comme le ministre l'a dit, qu'on ait un code des hydrocarbures, comme on a le code minier, qui essaie de gérer les exploitants miniers qui savent exactement ce qu'ils doivent faire et quand est-ce qu'ils doivent le faire.
On est tenté de dire peut-être que ce qui se fait maintenant au pays n'est pas contrôlé ou assez contrôlé.
C'est plutôt mon avis également. Donc, la régie, en fait, la manière d'administrer dans le pétrole, elle est beaucoup moins contrôlée en ce moment par manque de ce document dont on va appeler, donc on va parler du code des hydrocarbures, qui doit normalement fixer les limites dans l'exploitation de tout ce qui se passe. Et donc, par rapport à ça, est-ce qu'on essaie de regarder davantage au Parlement à la rentrée parlementaire, si on peut annexer l'ordre du jour ce document qui devrait être fait impérativement.
Donc le souhait, c'est qu'à l'étape de l'exploitation, parce que jusque-là, le ministre Atta Matabé ne parle que de l'exploration. À l'étape d'exploitation, il faudrait que l'on contrôle bien le secteur, parce qu'il est très prometteur, comme vous l'avez dit.
Oui, parce que l'exploration va mettre en évidence les gisements pour savoir combien de millions de barils qu'on devra produire. Et à ce moment-là, quand on a les prévisions que l'on connaît déjà, il est plus facile de pouvoir le suivre dans l'exploitation et par rapport aux taxes de l'État. Et quand on ne sait pas contrôler ce qui a été produit, on ne connaît pas le potentiel que renferme le sous-sol, qu'il contient en soi, et alors il est difficile de vérifier son exploitation.
Donc, le ministre a dit qu'à l'est, à l'ouest du pays, l'Angola produit, le Congo-Brazzaville produit, et la RDC aussi produit. Mais si nous comparons la quantité produite par chacun de ces trois pays, la RDC est le bon petit dernier.
Oui, notre production semble la plus faible.
25 000 barils jour, alors que les autres sont 10 fois plus que ça les jours.
Et voilà, donc vous comprenez pourquoi l'exploration est, disons, de fait de mise, parce que c'est celle qui vous permet d'avoir en évidence le potentiel que vous possédez, et vous connaissez votre ressource, et à ce moment-là, il y a lieu de pouvoir planifier son exploitation et dire autant on a ceci, autant on pourrait avoir autant de barils produits jour, et donc on peut faire la concurrence par rapport aux autres pays.
Alors, comment vous expliquez cette faible production de...
Oui, la production est très faible parce que l'exploration, le ministre l'a dit, n'a pas encore été totalement définie. Et donc, quand on n'a pas défini le potentiel de ressources, on ne sait donc pas très bien contrôler son exploitation.
Il y a lieu de s'agiter un peu dans ce secteur puisque le prix du baril sur le marché international est en train d'augmenter.
Donc, si le code des hydrocarbures est mieux organisé, le climat des affaires va de soi et donc, il y a des exploitants pétroliers qui sont en quête des champs pétroliers, qui n'arrivent pas à les avoir. Donc, si le code est établi, et que tous ces exploitants peuvent venir, ils vont donc apporter des capitaux prêts qui vont couvrir la charge de l'exploration et mettre en évidence le potentiel de ressources que nous avons. Et à ce moment-là, on peut bien contrôler son exploitation.
Monsieur Romain Moukendi, nous allons terminer par là. Ça fait un bon bout de temps maintenant au pays. Et quelles nouvelles vous nous ramenez aujourd'hui?
Disons qu'on a toujours des nouvelles par rapport aux mines, qu'il y a des conférences Indaba qui vont se passer en Afrique du Sud, ça c'est le mois prochain. Et donc, c'est un forum de tous les miniers de la planète qui se rencontrent pour voir quelle est l'évolution des mines et quelles sont les matières qui sont plus intéressantes que les autres en ce moment. Il y a aussi IPAD qui va aussi se passer notamment ici à Kinshasa et à Lubumbashi. Donc, ça permet aux gens, disons, de s'informer davantage par rapport aux décideurs dans le domaine des mines, des hydrocarbures et de l'électricité, qui sont des domaines très prometteurs en RDC, avec des potentiels très forts pour lesquels on devrait avoir une bonne organisation de gestion pour que les choses ayant été bien contrôlées au départ et dirigées dans son exploitation puissent pouvoir ramener dans l'assiette de l'État un produit équivalent qui doit faire la population, la joie de la population, d'avoir eu à contenir ce potentiel dans son sol.
Je voulais vous poser cette question, mais je me trouve que peut-être vous y avez déjà répondu. Mais je veux par exemple savoir, est-ce qu'à la conférence de Indaba, où tous les miniers du monde se retrouvent, il y a de la place pour la RDC?
Il y a une grande place pour la RDC parce que la RDC étant le champ potentiellement encore économique où les gens ont des perspectives de pouvoir trouver des permis, comme on l'a dit tout à l'heure, de pouvoir trouver des permis de recherche. Ailleurs, vous n'avez peut-être pas la possibilité de trouver des permis de recherche, mais en RDC, cela est faisable. Donc, la RDC est vue en grand sur le domaine de potentiel et donc tout le monde s'y intéresse.
Romain Moukendi, géologue en exploration senior, consultant et en même temps analyste. Tout le plaisir était pour nous de vous recevoir dans ce numéro de Panorama économique.
Merci à tous les auditeurs de Radio Okapi. À bientôt.
Merci à vous, Romain Moukendi. Merci, François Kadimas. Merci à Patrick Kessongwa qui a assuré la mise en la prise de son de ce numéro de Panorama économique. Merci à vous, chers auditeurs. Retrouvez Panorama économique toute la semaine sur www.radiookapi.com. L'actualité au quotidien, l'actualité économique au quotidien, c'est de lundi à vendredi, 18h15, heure de Kinshasa, dans Echo d'économie. D'ici là, très bonne fin de semaine à toutes et à tous. Très bonne suite de programme sur votre radio. Thank you.